Val d'Ancel.
Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer un agent en cybersécurité qui est autrefois un hacker. Au programme, une séance de questions-réponses avec ce même hacker et une découverte passionnante de comment utiliser les compétences de hacking pour faire le bien. Pouvez-vous vous présenter brièvement et expliquer comment êtes-vous devenu un hacker éthique et qu'est-ce qui vous a motivé à utiliser vos compétences informatiques de manière positive?
Bonjour, je m'appelle Alex Beaumont, je suis consultant en sécurité informatique âgé de 28 ans. J'ai commencé à m'intéresser au monde du hacking dès mon adolescence, mais c'est au fil du temps que j'ai décidé de canaliser mes compétences de manière éthique.
Comment définirez-vous l'éthique en matière de hacking? Quels principes guident votre approche en tant que hacker éthique? Et comment assurez-vous la qualité et la responsabilité de vos activités?
Eh bien pour moi, l'éthique dans le hacking signifie utiliser mes compétences pour renforcer la sécurité et protéger les gens. La responsabilité est essentielle. Je m'assure toujours de respecter la loi et obtenir l'autorisation appropriée avant d'entreprendre des tests de sécurité.
Quelles compétences informatiques sont-elles essentielles pour un hacker éthique? Et avez-vous suivi une formation spécifique pour développer vos compétences en sécurité informatique?
En ce qui concerne mes compétences, je suis expert en pénétration testing, cryptographie et en analyse de vulnérabilité. J'ai suivi une formation formelle en informatique à l'université, mais la majeure partie de mes compétences en sécurité ont été acquises par des projets pratiques et une auto-formation continue.
Quels conseils donneriez-vous pour les aspirants en tant que hackers éthiques et comment peuvent-ils canaliser leurs compétences informatiques pour contribuer de manière positive à la société?
Eh bien, si vous souhaitez devenir hacker éthique, la clé est l'apprentissage continu. Restez informé sur les dernières tendances en sécurité, participez à des projets pratiques et développez une solide compréhension éthique de votre rôle en tant que hacker.
Comment voyez-vous l'évolution du hacking éthique dans les années à venir et quels sont les domaines émergents où les hackers éthiques pourraient jouer un rôle crucial?
Je crois que le hacking éthique jouera un rôle de plus en plus important à mesure que la technologie évolue. Les hackers éthiques seront essentiels pour contrer les menaces croissantes et garantir la sécurité dans un monde de plus en plus connecté.
Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Cette interview était fictive et était à but de prévention et d'information. Il est important de préciser que le hacking est un fléau pour l'État. En 2022, le coût des cyberattaques visant la France était de 2 milliards d'euros. Si vous voulez vraiment vous épanouir dans la légalité tout en gagnant de l'argent, tournez-vous vers les bug bounty. Ce sont des primes que les entreprises versent aux personnes leur signalant des bugs ou des failles de sécurité qui sont plus ou moins importantes selon le bug ou la faille de sécurité signalée. C'était Debord Barbosa dans le rôle du journaliste et...
Et le prisé Lucas.
A très bientôt, passez une bonne journée.
Val de Ancel, en direct de 10h à 16h, la radio qui se met en scène.
Aujourd'hui, nous allons interviewer M. Prunier, qui travaille dans la cybersécurité. Bonjour.
Bonjour. Je vais me présenter très rapidement. Donc, Nicolas Prunier, je suis ingénieur en informatique. Plus spécifiquement dans le domaine des réseaux et télécommunications au départ, et j'ai été pendant une dizaine d'années responsable, donc RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information pour une grande structure de la région.
Pour vous, qu'est-ce que la cybersécurité?
Alors, la cybersécurité aujourd'hui, c'est un terme qui va regrouper l'ensemble des moyens, qu'ils soient humains, matériels, logiciels, qu'on va mettre en œuvre dans le but de garantir la sécurité de ce qu'on appelle un système d'information, globalement de la donnée numérique. On voit que le monde numérique aujourd'hui est omniprésent et il pose beaucoup de questions. Être sûr que les informations qu'on trouve, l'auteur présumé est bien le véritable auteur, être sûr que l'information qu'on trouve n'a pas été modifiée, garantir son authenticité, etc. Et puis évidemment sa confidentialité. Voilà pour les grands derniers points quand même importants. Qui va aussi faire partie de la cybersécurité, auquel on pense souvent moins, la disponibilité d'une donnée. C'est bien qu'elle soit sécurisée, mais on veut aussi qu'elle nous soit disponible au moment où on en a besoin.
Est-ce non de faire des études dans le domaine de la cybersécurité?
Alors, comme je disais, la cybersécurité, c'est extrêmement large, et on va forcément avoir énormément de cursus aujourd'hui qui vont avoir un lien avec la cybersécurité. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler proche de l'informatique sans faire un petit peu de cybersécurité. Forcément, on peut aller, je dirais presque, du bac pro ou des gens qui vont gérer un parc informatique au quotidien. C'est eux qui sont les plus proches de l'utilisateur. Ils vont être acteurs de la cybersécurité dans l'information qu'ils vont pouvoir lui transmettre. Et puis, complètement à l'autre bout du spectre, on peut avoir des chercheurs en mathématiques qui vont travailler sur des algorithmes de chiffrement et qui, eux, vont avoir des bacs plus 9 et plus. Entre les deux, on retrouve évidemment les développeurs et les personnes peut-être les plus sur le sujet aujourd'hui, qui sont tous ceux qui font du test de pénétration sur du code ou de la vérification de code. Donc voilà, je dirais que l'échelle va de bac jusqu'à bac plus 9.
Pour vous, quels sont les types de cyberattaques les plus courantes?
Les cyberattaques les plus courantes qu'on va avoir, c'est celles de la famille de ce qu'on appelle le social engineering, donc tout ce qui est s'appuyer sur une relation sociale pour obtenir des informations, par opposition à des attaques plus techniques, typiquement le hacking, enfin aller rentrer dans un système d'information sans y être autorisé. Et le grand classique du social engineering, c'est évidemment le phishing, donc cet email qui vous dit « Votre compte de messagerie va être fermé, donnez-moi votre mot de passe pour que je puisse le réactiver » et toutes les variantes.
Quel est le but principal de votre métier ?
Alors, si je reviens sur l'émission du RSSI, qui me semble être, je dirais, le cœur de ce principe de cybersécurité, globalement, le RSSI est l'organisateur, on va dire, le chef d'orchestre de l'ensemble des acteurs qui participent à garantir cette confiance dans l'information numérique, l'objectif de la cybersécurité. Pourquoi un ensemble d'acteurs ? Parce qu'on va aller d'acteurs très techniques, encore une fois, des gens qui vont gérer des firewalls, voire des gens qui vont aller éplucher du code pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, à des acteurs plus politiques, s'il y a un incident, comment est-ce qu'on le gère ? Des acteurs dans le domaine de la formation, je pense qu'il y a vraiment un point qu'il ne faut pas perdre, comme ça peut être le cas pour la sécurité routière, un des acteurs principaux de la cybersécurité, c'est l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on peut mettre toutes les barrières, s'il répond à l'email qui lui demande son mot de passe, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc voilà, le rôle du RSSI pour moi, c'est de mettre en musique tous ces acteurs pour avoir une démarche cohérente en termes de cybersécurité.
Quel avenir voyez-vous pour votre métier ?
Alors, je pense que sur tout le domaine de la cybersécurité, on a un avenir qui est plutôt radieux. On voit bien que le monde numérique, on est pleinement dedans, mais que chaque jour un peu plus, que c'est un monde qui est en perpétuelle évolution. Donc, on a toujours besoin de plus d'acteurs pour le gérer. Donc là-dessus, je suis absolument pas inquiet.
Pour vous, quelles sont les qualités les plus importantes pour un professionnel de la cybersécurité ?
À mon sens, je pense que la qualité la plus importante, ce serait la curiosité. On est clairement au plus proche, je dirais, on est juste sur la ligne de crête du système d'information, c'est-à-dire que chaque jour, il y a des nouveaux processus, il y a des nouvelles façons de faire, il y a des nouvelles technologies, que la cybersécurité doit aujourd'hui les accompagner au plus proche, puisque très vite les failles sont cherchées. Donc l'important, le point numéro un, c'est d'être curieux, d'avoir envie tous les jours de se renseigner, de voir qu'est-ce qui a été trouvé, qu'est-ce qui a avancé, quels sont les nouveaux sujets. À ça, j'ajouterais aussi peut-être un petit peu de rigueur, puisque comme tout ce qui touche à la sécurité, ça demande quand même à être un petit peu carré.
Pourquoi avoir eu envie d'exercer ce métier en particulier ?
Alors, ça va faire écho à ma réponse précédente. Moi, j'ai fait mes études dans les années 2000, donc au tout début de l'arrivée d'Internet, forcément, un monde passionnant qui s'ouvre à nous. Donc, je suis parti sur la branche informatique. Et puis, comme je l'évoquais, j'ai trouvé que la cybersécurité faisait partie, dans la branche informatique, des choses les plus attrayantes, les choses où il y avait le plus de nouveautés, de choses à découvrir. Donc voilà, le côté...
Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui seraient intéressées par votre métier ?
Je leur dirais d'y aller, de foncer. Comme je disais, pour moi, c'est vraiment un métier passionnant, où il y a toujours de la nouveauté, où on voit toujours des nouvelles choses. Et puis j'ajouterais en plus que c'est, comme je l'évoquais sur le RSSI, c'est très à la croisée des chemins. Donc c'est à la fois très pointu et à la fois très ouvert. On n'est pas enfermé dans son petit monde. Ce qui a peut-être, du coup, le besoin en termes de conseils, de dire qu'il faudra être volontaire, peut-être aller fouiller un petit peu plus sur des choses qui nous attirent moins, parce que la cybersécurité demande, à mon sens, une vision assez globale du système d'information.
Nous vous remercions d'avoir été présent pour répondre à nos questions aujourd'hui.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Vous venez d'écouter une interview sur le sujet de la cybersécurité et l'histoire du piratage du compte Twitter qui touche la Maison Blanche. Ça vous dit quelque chose ? Elle a fait perdre près de 105 milliards d'euros de capitalisation sur les marchés new-yorkais. Voyons deux histoires marquantes de cyberattaques, l'une affectant l'industrie du jeu vidéo chez Rockstar Games, expliquée par Jérémy, et l'autre ciblant des personnalités influentes sur Twitter, expliquée par Lucas.
Le 18 septembre 2022, la filiale de Take-Two Interactive, Rockstar Games, a été victime de l'une des plus grandes fuites de l'histoire du jeu vidéo. Le code source et 90 extraits vidéo du futur GTA 6 ont été diffusés sur le web. Le code source est un code écrit dans un langage de programmation et qui peut être converti pour constituer un programme exécutable. Pour ceux qui n'ont pas compris, imaginez le code source comme une recette de cuisine qui permet à l'ordinateur de préparer un excellent gâteau. Caché sous le pseudo d'utilisateur Tipot Uberhacker, Alan Curtage, un membre clé de Lapsus, est celui qui a causé les fuites contre Rockstar Games. Lapsus est un groupe de hackers qui ont attaqué Microsoft, Uber et Nvidia, le numéro 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation du processeur graphique. Le processeur graphique est comme le cerveau de l'ordinateur. Il rend les images plus belles et plus fluides à l'écran. Les conséquences des fuites du jeu ont fait perdre 5 millions de dollars et des milliers d'heures de travail à Rockstar Games, les forçant à annoncer la sortie du jeu pour la fin de l'année 2025. Alan Curtage a été condamné le jeudi 21 décembre à une peine de durée indéterminée dans un hôpital sécurisé, car celui-ci est inapte à subir un procès en raison de son autisme aigu.
Nous allons maintenant voir la deuxième histoire sur les piratages de masse de comptes Twitter. Dans la nuit du 15 juillet 2020, entre 20h et 22h, les comptes de 45 personnalités ont été piratés sur le réseau social Twitter pour promouvoir une escroquerie liée à la crypto-monnaie. Ce piratage a été rendu possible par la manipulation d'un groupe d'employés de Twitter. En effet, ces comptes ont été piratés grâce à l'utilisation d'outils uniquement accessibles aux équipes de soutien interne, donc des outils possédés par des modérateurs, qui sont des employés qui ont pour rôle de veiller à ce que la plateforme reste bienveillante. Le pirate a diffusé sur les comptes de célébrités tels que Donald Trump, Barack Obama, Elon Musk et Joe Biden un tweet les invitant à envoyer 1 000 $ pour recevoir 2 000. Une arnaque pourtant facile à détecter, mais basée sur l'urgence, car les tweets mentionnaient que cela n'était valable que pendant 30 minutes. Les conséquences de cette attaque sont de 320 transactions pour un total de 110 000 $ volés avant que les tweets ne soient supprimés par Twitter. Ce piratage a été orchestré par Joseph O'Connor, un Britannique de 24 ans qui a été condamné à 5 ans de prison après avoir plaidé coupable, et Graham Clark, un Américain de 17 ans, condamné en 2021 à 3 ans de prison. Cette attaque est considérée par certains comme le pire piratage d'une grande plateforme de médias sociaux à ce jour.
En résumé, ces deux histoires mettent en lumière les conséquences négatives des attaques de pirates informatiques, que ce soit dans l'industrie du jeu vidéo avec la fuite majeure chez Rockstar Games ou sur les médias sociaux avec le piratage massif des comptes Twitter. Les pertes financières, les heures de travail perdues et les condamnations ultérieures soulignent l'importance cruciale de renforcer la sécurité informatique pour protéger les entreprises et les individus contre de telles menaces cybernétiques.